Vous écoutez, on lit pour vous.
Parole donnée, promesse creuse. Un texte de Louise Maud Rioussoussi, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir. En 2023, dans cette même colonne, on s'interrogeait sur l'illogisme de tenir des milliers de gens loin du terreau sur lequel ils étirent leurs nouvelles racines. À l'époque, on calculait qu'il faudrait plus de 25 ans à un ange gardien, à un Ukrainien ou à tout autre immigrant arrivé pour des considérations humanitaires pour obtenir la résidence permanente. Ces détails dépassent maintenant les 50 ans, dans certains cas, nous apprenait Le Devoir vendredi. En un claquement de doigts, nous sommes passés d'un quart de siècle à patienter dans les limbes du système migratoire à un demi-siècle. À l'échelle d'une vie humaine, c'était alors le temps qu'il fallait pour fonder une famille et voir ses enfants s'émanciper. C'est maintenant le temps d'une vie active, si bien que certains pourraient ne jamais obtenir leur permanence de leur vivant. Avons-nous perdu tout sens commun? Les grands perdants de cette loterie sont les Ukrainiens, pour qui les délais d'attente atteignent désormais 55 ans. Ils sont suivis de près par les ressortissants de Hong Kong, qui peuvent attendre 50 ans. L'attente va de quelques mois à plusieurs décennies dans les autres programmes humanitaires, a constaté la collègue Lisa Maria Gervais. En juin dernier, ils étaient 14 000 inscrits dans cette catégorie au Québec. C'est l'équivalent d'une ville comme Bécancour ou Matane. Une goutte d'eau dans un Québec qui compte plus de 9 millions d'âmes. Rien n'est fait pour renverser la vapeur. Si les dossiers fondés sur des motifs humanitaires ont perdu tout contrôle au Canada, c'est qu'on répond à la très forte demande avec des contrôles d'admission limités et des objectifs d'admission dérisoires. Autrement dit, on laisse le robinet grand ouvert tout en rapetissant la cuvette. C'est indigne d'un pays qui croit en la dignité humaine et en l'équité de traitement. Soyons clairs. Ce sont tous là des gens à qui on a dit, pour des raisons humanitaires, fondées, bienvenue. Il est normal qu'il y ait ensuite d'autres étapes à franchir, des conditions à remplir. Mais il est anormal qu'on étire la transition sur des décennies. Sans résidence permanente, ces gens sont condamnés à vivre dans l'éther d'un monde de seconde zone, rythmé par le renouvellement de permis temporaires, des exigences financières fragilisantes et des interdits de toutes sortes. De plus, ce statut précaire repousse au calende grec tout projet de réunification familiale éventuel. Mais voilà, on ne sait pas quoi faire de toutes ces vies en suspens. Une des choses qui manque le plus à Ottawa comme à Québec, c'est encore et toujours la capacité de voir large et de voir loin en immigration. Oui, notre système migratoire est pétri de défauts et d'incohérences, au point que cela l'a rendu dysfonctionnel et même discriminatoire. Réformer ces règles d'admission en profondeur est devenue une vraie nécessité qui s'accompagne de décisions difficiles, qui vont forcément heurter et déplaire. Cela ne devrait pas pour autant se faire avec un passe-droit pour l'arbitraire et un manque d'humanité. Il y a des moments où il faut faire preuve de fermeté et de réalisme. C'est ce qu'on attend de nos gouvernements pour les cycles migratoires à venir. À moins d'un rapatriement complet des pouvoirs en immigration, Québec est condamné à travailler avec Ottawa, ils ont du pain sur la planche. Il y a bel et bien eu des abus, des stratagèmes frauduleux et de mauvais calculs dans le passé, à toutes les étapes et chez toutes les parties. Il faut des correctifs, bien sûr, mais il faut surtout des lignes claires. Sans stabilité ni prévisibilité, la crise migratoire va continuer d'empoisonner nos débats publics. Ce devoir ne dispense pas pour autant nos gouvernements de rester à l'écoute et de faire preuve de souplesse avec ceux qui sont déjà installés ici pour s'écrire une nouvelle vie en français, s'il vous plaît. On aura beau tourner le problème dans tous les sens, il reste que nous leur avons donné une parole que nous sommes incapables d'honorer. C'est aussi un peu ce qui arrive avec la fin du programme de l'expérience québécoise, PEQ, et son remplacement par un programme de sélection des travailleurs qualifiés aux règles resserrées. Pas un jour ne passe sans que des voix s'élèvent pour dénoncer les conséquences de cette décision sur nos collectivités. La semaine dernière, c'était la directrice d'un GMF à Montréal qui se désolait de perdre une infirmière clinicienne, une perle formée en France qui avait trouvé le tour de se rendre indispensable en un rien de temps. Le Québec a besoin de bras en santé, mais il choisit tout de même de lui enlever un pilier, dénonçait-elle à raison. Plusieurs ont défendu la nécessité d'une clause de droit acquis pour les orphelins du PEQ et l'ajout de délais maximaux pour la résidence permanente des plus vulnérables. Ce sont là des voies de sortie logiques. Partout sur la planète, le débat migratoire se durcit. nous ne sommes pas à l'abri d'une escalade. Pour que le débat reste le plus serein possible, il faut le garder juste. Et pour cela, il faut être capable de faire des compromis. C'était « Parole donnée, promesse creuse », un texte de Louise Maud Rioussoussi, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir.
L'explosion de colère contre la conscription, 1917-1918. Un texte de Marc Tison, paru le 19 octobre 2025 dans la presse. Au cœur du brûlant été 1917, alors que les manifestations contre la conscription se multiplient au Québec, une bombe explose à la résidence secondaire du propriétaire du Montreal Daily Star. Élie la lumière avait allumé la mèche, au sens figuré, sinon au sens propre. La Grande Guerre s'enlisait depuis 1914 et le 22e bataillon canadien-français combattait dans les tranchées depuis 1915. Mais dans la nuit du 9 août 1917, c'est à Cartierville, dans le nord de l'île de Montréal, qu'un engin fait explosion. La déflagration souffle les fenêtres et détruit la vaste galerie de la somptueuse résidence secondaire de Hugh Graham, propriétaire du journal Montreal Daily Star, qui était devenu en mai 1917 le baron Athelstan de Huntingdon. Le nouvel aristocrate, sa femme, sa fille, ses domestiques et un invité présent dans la maison s'en tirent indemnes. Un témoin dit avoir vu filer une voiture, tout phare éteint, à bord de laquelle il aurait malgré tout réussi à compter 6 individus. L'inspecteur Honoré Giroux, de la police fédérale, est chargé d'enquêter sur l'explosion à propos de laquelle les autorités sautent aux conclusions. L'attentat est en lien avec la prise de position du journal en faveur de la conscription. Les soupçons se portent rapidement sur une organisation anticonscriptionniste, la Ligue des Constitutionnels, fondée par l'obscur Élie la Lumière. La loi qui met le feu aux poudres. Car au Québec, depuis le printemps précédent, de vigoureuses manifestations contre la conscription se multiplient. Revenu bouleversé d'un voyage en Europe au printemps 1917, le premier ministre conservateur, Robert Borden, avait annoncé la nécessité du service militaire obligatoire pour reformer les rangs décimés du corps expéditionnaire canadien, que le volontariat ne suffisait plus à regarnir. Le 11 juin, il présente la loi sur le service militaire qui énonce que les hommes âgés de 20 à 45 ans sont susceptibles d'être appelés sous les drapeaux. La loi est adoptée le 24 juillet par 102 voix contre 44 par une chambre des communes déchirée entre députés francophones qui s'y opposent et anglophones. Elle doit entrer en vigueur le 29 août. La lumière entre en scène. Ancien agent électoral conservateur pour l'élection partielle de 1912 dans Hochelaga, Élie la Lumière est électricien. Ça ne s'invente pas. Et tient un magasin boulevard Saint-Laurent. Le 20 juillet 1917, lors d'un rassemblement à l'angle des rues Marianne et Berry, il invite les jeunes Canadiens-Français à rejoindre les rangs d'un groupe paramilitaire anticonscriptionniste qui compterait déjà 500 recrues à l'entraînement. La Lumière identifie même leur commandant, un certain Yvon Larose, ancien officier de l'armée américaine. Est-ce vrai? Chose certaine, le 1er août suivant, à la faveur de la nuit, la Lumière et plusieurs membres de son organisation, masqués et armés, dérobent 160 kg de dynamite à la carrière Martineau, dans le quartier Rosemont, là où se trouve aujourd'hui le parc Père Marquette. Des cambrioleurs distingués, décrira le gardien des lieux, qu'ils ont séquestrés avec courtoisie. Au matin, un colis contenant un bâton de dynamite et un message contre la conscription est découvert aux environs de la résidence du sénateur conservateur Charles-Philippe Beaubien, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Outremont. Coup de semonce? Coup de publicité? Coup raté? L'explosion qui surviendrait 8 jours plus tard à Cartierville fera beaucoup plus de bruit. Piège et suicide. Dénoncé par l'avocat Wilfrid Enfield, frère d'un des conspirateurs, Élie Lalumière est arrêté le soir du 29 août dans une maison d'Outremont. Ses deux plus dangereux acolytes, Joseph Enfield et Henri Monette, dit Girard, réussissent à fuir au milieu d'une fusillade. Engagés volontaires en 1914, puis déserteurs, les deux anciens soldats avaient fait de la prison avant de se joindre à l'organisation de Lalumière. Le 30 août, les armes et une partie de la dynamite volée sont découvertes lors d'une perquisition dans le logement d'un autre conjuré, Joseph Tremblay, rue de Châteaubriant. Le 2 septembre, Enfield et Monette sont repérés dans la région de la chute. Pris en chasse et cerné, Enfield est blessé d'un coup de feu alors qu'il tente de traverser une rivière. Il retourne son revolver contre lui et se tire une balle dans la bouche. Monette réussit à fuir, mais sera capturé le 18 septembre à Pointe-aux-Trembles, où il s'est trouvé un emploi d'homme à tout faire. Chef ou otage? L'enquête préliminaire des conjurés s'ouvre le 11 septembre 1917 devant une foule compacte et passionnée qui assiste à l'arrivée des prévenus par un tramway cellulaire. On apprend qu'au moment de son arrestation, Lalumière avait rapidement fait des aveux pour rejeter la responsabilité de l'attentat sur Joseph Enfield et Henri Monette. Tout ce que j'ai fait avec Gérard Monette, Enfield et Tremblay, je l'ai fait parce qu'on voulait toujours me tuer quand j'hésitais, affirme alors Lalumière. Joseph Tremblay témoigne plutôt que Lalumière dirigeait les opérations et que Monette et Enfield exécutaient les basses œuvres. Il raconte qu'une douzaine d'hommes ont assisté dans le magasin de la Lumière à la réunion qui a précédé le vol de dynamite. S'y trouvaient Enfield, Monette et le mystérieux Charles Tinoir Desjardins, un détective au rôle équivoque. L'infiltré. Bien que son nom surgisse fréquemment dans les assises, Charles Desjardins ne sera jamais inquiété avant son arrestation, le 19 octobre 1917 à Trois-Rivières. 3 jours plus tard, lors de sa comparution, 2 jeunes témoins des réunions dans le magasin de la Lumière affirment que c'est Desjardins qui jetait des armes et de l'argent sur la table et de l'huile sur le feu de l'action violente. L'inspecteur Honoré Giroux, de la police fédérale, l'homme chargé d'enquêter sur l'attentat de Cartierville, vient confirmer que Desjardins était à sa solde. Un procès qui fait long feu. Dans un procès distinct, Monette est promptement condamné pour une tentative de meurtre commise durant sa cavale. La plupart des autres suspects seront libérés ou acquittés faute de preuves. Le procès de Lalumière et Desjardins, d'interruption en report, ne se conclura pas avant la fin de la guerre. Les poursuites seront abandonnées en 1919. Lalumière se retire alors dans l'ombre et disparaît de l'actualité. L'embrasement de Pâques 1918. Entre-temps, l'élection kaki du 17 décembre 1917, épithète donnée en référence à la couleur de l'uniforme militaire, avait porté au pouvoir la coalition unioniste de Borden, qui réunissait les conservateurs, les rares libéraux favorables au service obligatoire et quelques indépendants. La conscription était dès lors plébiscitée. L'explosion de colère contre la conscription embrase la ville de Québec durant la fin de semaine de Pâques 1918. Après la brutale arrestation, le 28 mars, d'un jeune homme qui n'avait pas en poche son certificat d'exemption, les manifestations virent en violentes émeutes, réprimées par 2000 soldats canadiens appelés en renfort. Le soir du 1er avril 1918, des tirs de mitrailleuses résonnent dans la base ville embrumée. Les balles font 4 morts et des dizaines de blessés. La proclamation de la loi martiale à Québec, le 4 avril, éteint les derniers brandons de révolte. Mais la flamme d'une conscience nationale avait commencé à couver sous les cendres. C'était l'explosion de colère contre la conscription 1917-1918, un texte de Marc Tison, paru le 19 octobre 2025 dans La Presse.
À qui s'adressent les aliments sans gluten? Un texte de Pauline Gravel, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir. Un nombre croissant de personnes restreignent la quantité de gluten qu'elles absorbent, arguant faire face à une intolérance qui serait la source de divers symptômes, allant de dérangements intestinaux au déficit de l'attention. Une telle diète serait-elle la panacée? L'alimentation sans gluten est actuellement prescrite aux personnes atteintes de la maladie cœliaque, car il a été démontré que le gluten est le grand coupable à l'origine de cette grave pathologie. Mais un régime sans gluten n'est pas sans risque, car il expose, entre autres, les personnes qui l'adoptent à des carences nutritionnelles. Bannir de façon stricte tout aliment contenant du gluten est toutefois la seule stratégie qui existe à l'heure actuelle pour traiter la maladie cœliaque. Car chez les personnes qui en sont atteintes, ce groupe de protéines est perçu par le système immunitaire comme un danger qu'il s'emploie à éliminer, ce qui entraîne du même coup une vive inflammation de la muqueuse intestinale. L'intolérance au gluten, quant à elle, n'est pas une pathologie reconnue. On parle plutôt d'une sensibilité au gluten non cœliaque. On ne comprend toujours pas très bien la cause de cette sensibilité. Certains experts pensent que d'autres molécules contenues dans le blé pourraient provoquer les symptômes observés. D'autres croient que cette sensibilité accrue serait en fait une forme particulière du syndrome de l'intestin irritable. On avance même que, dans certains cas, il s'agirait d'un effet nocebo, c'est-à-dire que la personne affectée croit que le gluten est nocif pour elle parce que ses troubles disparaissent lorsqu'elle s'en prive, alors que, dans les faits, le gluten n'a aucun effet délétère sur elle. Le gluten est un groupe de protéines présent dans plusieurs céréales, le seigle, le blé, l'orge et le triticale, un hybride du blé et du seigle. S'ajoute à ce groupe l'avoine. Il n'y a pas de gluten dans l'avoine, mais elle est très souvent contaminée. C'est pourquoi on l'a incluse dans les céréales qui contiennent du gluten, explique la diététiste nutritionniste Christine Desjardins, membre du comité scientifique de Cœliaque Québec. Les personnes atteintes de la maladie cœliaque doivent en effet éviter tout aliment qui ne contiendrait ne serait-ce qu'une trace de gluten. Un régime qui n'est pas sans risque. Les personnes qui s'astreignent à une diète sans gluten s'exposent à certaines carences nutritionnelles, prévient d'ailleurs la diététiste. En retirant plusieurs céréales de l'alimentation, on retire de la variété en matière de nutriments. De plus, contrairement à la farine de blé blanche, qui, au Canada, est obligatoirement enrichie en fer et en plusieurs vitamines du groupe B, les farines sans gluten ne sont pas soumises à un tel règlement. La plupart des produits sans gluten sont principalement préparés avec de l'amidon de riz, de pommes de terre ou de maïs, ainsi qu'avec un peu de farine sans gluten, de riz, de maïs, de pommes de terre ou de manioc, notamment.
En l'absence de gluten, qui apporte de belles propriétés en cuisine, l'amidon va donner une meilleure texture, explique Madame Desjardins. Mais malheureusement, il a une moins bonne valeur nutritionnelle. C'est un glucide qui ne contient rien d'autre que des sucres, alors que la farine de blé contient aussi un peu de protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres. De plus, les produits sans gluten contiennent souvent un peu plus de sucre, de gras et de sel que les produits réguliers, puisque cela améliore leur texture et leur goût. Il existe toutefois de très bons produits sans gluten auxquels on a ajouté des grains entiers de lin ou de chia ou qui sont faits avec de la farine d'amande, d'amarante, de sorgho, de millet, de sarrasin, de quinoa, de tapioca, de sagou ou de teff. Ces produits présentent une bonne valeur nutritionnelle, mais coûtent souvent beaucoup plus cher. Le prix des produits sans gluten peut d'ailleurs être le quadruple ou le quintuple de celui des produits réguliers, ce qui représente un véritable défi pour les gens qui sont atteints de la maladie cœliaque et qui ont de faibles revenus. Le fait de suivre une diète sans gluten, sans supervision médicale, peut aussi entraîner une autre conséquence néfaste. Il y a en effet un risque de passer à côté d'un diagnostic de maladie cœliaque. Le plus grand danger, c'est d'avoir une maladie cœliaque qui resterait cachée parce qu'on ne l'a pas dépistée. Souvent, les gens qui suivent un régime sans gluten, sans avoir de diagnostic de maladie cœliaque, ne vont pas le faire de façon très stricte. Ils vont se permettre de la contamination ou un petit dessert de temps en temps. Et là, la maladie peut causer des dommages. Même si les symptômes ne sont pas extrêmes, la muqueuse peut être endommagée. Et le syndrome du côlon irritable. Certaines personnes souffrant du syndrome du côlon irritable s'imposent toutefois une diète sans gluten, car elles en ressentent des bienfaits. Mais dans leur cas, les coupables seraient plutôt des molécules qu'on appelle des FODMAP, de l'anglais Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyol. Des glucides qui ont tendance à fermenter dans l'intestin et ainsi à provoquer des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales. On trouve des FODMAP dans plusieurs fruits, légumes et légumineuses, ainsi que dans le seigle, l'orge et le blé. Or, comme il y a à la fois du gluten et des FODMAP dans plusieurs céréales, les gens qui éliminent le gluten de leur alimentation diminuent du même coup leur consommation de FODMAP, ce qui expliquerait l'atténuation de leurs symptômes. Une fois qu'on a mis de côté les diagnostics de maladie cœliaque ou de syndrome de l'intestin irritable, il reste la possibilité d'une sensibilité au gluten non cœliaque. On peut tester ça avec le patient en consultation nutritionnelle. On va d'abord retirer le gluten et ensuite le réintroduire graduellement pour voir si les symptômes réapparaissent. Et pour être certain que ce n'est pas un effet psychologique, explique la diététiste nutritionniste Christine Desjardins, qui ne recommanderait d'ailleurs jamais une diète sans gluten en l'absence d'un diagnostic la rendant nécessaire. C'était « À qui s'adressent les aliments sans gluten ?» un texte de Pauline Gravel, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir.
L'un des plus grands icebergs du monde en voie de disparaître. Un texte de Sarah Collardy, paru le 13 janvier 2026 dans Le Devoir. L'un des plus grands icebergs du monde, le célèbre A23A, s'est vêtu d'une couleur bleue il y a quelques jours. Cette couleur serait le signe du début de sa disparition après 40 ans de dérive dans l'océan. Lorsqu'un des satellites de la NASA a capturé l'iceberg A23A le 26 décembre 2025, une vive couleur bleue était visible sur le dessus de l'iceberg. Le bleu correspond aux zones où l'eau s'est réchauffée et s'est accumulée dans les formations linéaires, les fissures de la glace. explique Walter Meyer, chercheur scientifique principal au Centre national de données sur la neige et la glace des États-Unis, en entrevue avec Le Devoir. Il précise que les motifs linéaires qui alternent entre bleu et blanc sont liés à des stries qui se sont créées lorsque le morceau de glace faisait encore partie de la calotte glaciaire antarctique il y a des centaines d'années. L'eau s'accumule ainsi dans les fissures pour s'écouler jusqu'au bord de la plateforme glaciaire, qui finit par se briser, précise l'expert. Cela indique clairement que l'iceberg est en train de fondre de manière notable et qu'il approche de la fin de son cycle de vie, où il se brisera complètement, affirme M. Meyer. L'iceberg A23A s'est détaché de la plateforme de glace de Filchner Run en Antarctique en 1986. Il était situé le long d'une fissure massive appelée le Grand Gouffre par les scientifiques qui l'ont remarqué pour la première fois dans les années 1950. Cette immense étendue de glace est connue pour être l'un des plus grands icebergs du monde et l'un des plus anciens jamais suivis par les scientifiques. Lors de son détachement en 1986, il s'étendait sur environ 4000 km², soit presque 10 fois l'île de Montréal. Au début du mois de janvier, sa superficie atteignait 1032 km², selon les données du Centre national des glaces des États-Unis, après avoir perdu plusieurs morceaux importants en juillet, en août et en septembre dernier. Proche de la fin. Pendant 30 ans, le méga iceberg est resté échoué au même endroit dans les eaux peu profondes de la mer de Weddell, en Antarctique. Rester plus de 30 ans au même endroit est assez inhabituel, et le fait qu'il ait survécu aussi longtemps est assez remarquable, avance M. Meyer. Depuis 2020, l'iceberg A23A se déplace au gré des courants de l'océan Austral. Il se déplace actuellement vers le nord-est, en direction de l'Atlantique Sud. Il approche à grands pas de la fin, déclare M. Meyer. Il continue à se briser en morceaux plus petits. L'expert en glacier estime que la fin de l'iceberg se compte en jours ou en semaines, et que dans tous les cas, il ne passera pas l'été. Sa fonte n'aura pas d'impact sur le niveau de la mer, puisque le glacier est déjà dans l'océan et l'a toujours été. Ce qui influe sur le niveau de la mer, c'est plutôt la fonte des glaciers terrestres. La vitesse de fonte des glaciers est un indice de l'évolution des changements climatiques. Selon une étude publiée en février 2025 dans la revue scientifique internationale Nature, jusqu'à la moitié des glaces mondiales pourraient s'évaporer d'ici 2100, en raison des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'était l'un des plus grands icebergs du monde en voie de disparaître. Un texte de Sarah Coulardi, paru le 13 janvier 2026, dans Le Devoir.